Chapitre 52. Entrez donc, lieutenant, invita Keren White en levant les yeux de son dossier. Santos poussa la porte du bureau de l'anthropologue judiciaire. La jeune femme quitta son poste de travail pour mettre une capsule dans la machine à café posée sur une étagère. Un espresso?
Pourquoi pas,
répondit-il en regardant les clichés macabres qui tapissaient les murs. Des visages tuméfiés et tailladés, des corps lacérés, couturés, des bouches déformées par des cris d'horreur. Santos détourna la tête de ces monstruosités et détailla la jeune femme pendant qu'elle préparait les deux cafés. Avec sa jupe serrée, ses petites lunettes rondes, son air strict et son chignon haut, Keren White ressemblait à une institutrice à l'ancienne. Bien que surnommée Miss Skeleton, elle faisait fantasmer beaucoup de ses collègues. Au sein de la NYPD, elle avait pour mission d'identifier les restes humains, ossements, dents, corps calcinés ou en décomposition, trouvés sur des scènes de crime. Une tâche complexe. Conscient des progrès de la police scientifique, les assassins étaient de plus en plus nombreux à mutiler leurs victimes à l'extrême pour empêcher toute identification. « J'ai une autopsie dans 10 minutes, » prévint-elle en consultant sa montre. « Allez droit au but, » approuva le flic en s'asseyant. Keren White éteignit les lumières. Le jour commençait à se lever, mais le ciel gris et bas gardait la pièce dans la pénombre. L'anthropologue appuya sur le bouton d'une télécommande pour mettre sous tension un écran plat OLED accroché au mur. D'un clic, elle lança un diaporama qui présentait les clichés de l'autopsie du géant maori que Sébastien Larrabee avait égorgé dans le bar de Drake Decker. Allongé sur une table en inox, sous la lumière crue des projecteurs, la masse de chair cuivrée avait quelque chose de répugnant, mais Santos en avait vu d'autres. Il plissa les yeux et s'étonna du nombre impressionnant de tatouages qui recouvraient le corps de la victime. Loin de se limiter au visage, les dessins cannibalisaient tout le corps. Des spirales sur les cuisses, un motif tribal démesuré sur le dos, des rayons et des arabesques sur le torse. Debout devant l'écran, Keren commença son explication. À cause des marques et des entailles sur le visage, j'ai d'abord pensé, comme vous, que la victime avait des origines polynésiennes.
Mais ce n'est pas le cas.
Non, les motifs sont ressemblants mais ne correspondent pas tout à fait au code très strict des Polynésiens. Je pense que l'on est plutôt en présence d'une logique de gang. Santos connaissait le rituel. Dans les gangs originaires d'Amérique centrale, le tatouage révélait l'appartenance d'un individu à l'un d'entre eux et l'attachement symbolique qui le liait au groupe pour la vie. Keren White pointa la télécommande vers l'écran où s'affichait une nouvelle série de clichés. Ces photos ont été prises dans des prisons de Californie. Ces détenus appartiennent à des gangs différents, mais on retrouve chaque fois la même logique. Quand les membres commettent un nouveau méfait pour leur communauté, ils gagnent le droit d'ajouter un tatouage. Une étoile sur un bras indique par exemple que vous avez tué une personne. La même étoile sur le front signifie que vous en avez tué au moins deux. Le corps devient une sorte de curriculum vitae du crime, constata Santos. L'anthropologue approuva de la tête avant de revenir à un agrandissement d'un tatouage de la victime. On retrouve chez notre ami le symbole de l'étoile rouge à 5 branches. Le tatouage a dû être si profond qu'il semble en relief. Vous l'avez analysé? Très précisément. L'instrument employé pour effectuer ce type d'incision est sans doute un couteau traditionnel à lame courte. Mais le plus intéressant est l'étude du pigment injecté dans la peau. Je pense qu'il s'agit d'une forme très particulière de suie, issue de la gomme d'un arbre que l'on trouve principalement au sud du Brésil, le pin du Paraná. Keren attendit quelques secondes avant de passer à d'autres clichés. J'ai trouvé ces photos de détenus de la prison brésilienne de Rio Branco. Santos se leva pour se rapprocher de l'écran et retrouva sur les corps des prisonniers les mêmes formes que sur celui du Maori. Mêmes arabesques torturées, mêmes saillies qui se tordaient en hélices. Keren continua. Ces détenus ont un point commun. Ils appartiennent tous au cartel de la drogue des Siringueros, basé dans la région de l'Acre, un petit état amazonien aux confins du Pérou et de la Bolivie.
Les Siringueros?
C'était le nom donné autrefois aux ouvriers chargés de récolter le latex. L'Acre en était l'un des plus grands producteurs. Je suppose que le nom est resté. L'anthropologue éteignit l'écran et ralluma les lumières. Santos avait plusieurs questions qui lui brûlaient la langue. Mais Miss Skeleton le congédia sans prendre de gants. « Maintenant, c'est à vous de jouer, lieutenant, » dit-elle en sortant avec lui dans le couloir. Santos se retrouva sur le seuil de l'immeuble du commissariat d'Erickson Place. À présent, le soleil brillait dans un ciel clair et éclaboussait les trottoirs de Canal Street. Sonné par les révélations de Keren White, le flic éprouva le besoin de réfléchir et se rendit dans les Starbucks qui jouxtaient le commissariat. Il commanda une boisson chaude et s'installa à une table en ruminant ses pensées. Le cartel des Seringueros. Il avait beau travailler au stup depuis 10 ans, il n'en avait jamais entendu parler. Rien d'étonnant en soi. Son boulot quotidien consistait davantage à coffrer les trafiquants locaux qu'à démanteler des réseaux internationaux. Il ouvrit son ordinateur portable et le connecta au réseau Wi-Fi de l'établissement. Une recherche rapide le mena sur le site internet du Los Angeles Times. Le cartel y était évoqué dans un article datant du mois dernier. La chute du cartel des Seringueros. Au terme de 2 années d'enquête, les autorités brésiliennes viennent de démanteler un cartel de trafiquants de drogue basé dans l'état amazonien de l'Acre, dans la région la plus occidentale du pays. Organisé sur le modèle colombien, le cartel des Seringueros étendait ses ramifications dans près de 20 États de la Fédération. En provenance de Bolivie, la cocaïne entrait au Brésil par avion avant d'alimenter par la route les grandes villes du pays. Aujourd'hui en prison, Pablo Imperador Cardoza dirigeait cet empire mafieux à la tête d'une armée de mercenaires soupçonnés d'avoir exécuté avec une rare violence une 50aine d'opposants. Implanté de longue date dans l'état de l'Acre, le gang des Seringueros y faisait entrer chaque année plus de 50 tonnes de cocaïne grâce à plusieurs pistes d'atterrissage clandestines disséminées à travers la jungle amazonienne. Dans un balai incessant, les bimoteurs des narcotrafiquants y convoyaient des milliers de kilos de cocaïne pure, qui étaient ensuite coupés et acheminés vers les grandes métropoles pour fournir une foule de dealers opérant notamment à Rio et à Sao Paulo. Pour asseoir son pouvoir, le cartel de Pablo Cardoza avait tissé au fil du temps un vaste réseau de corruption et de blanchiment d'argent impliquant des centaines de personnes, parmi lesquelles des parlementaires, des chefs d'entreprise, des maires, des juges et même plusieurs commissaires de la police civile, accusés d'avoir classé de nombreuses enquêtes sur les meurtres commis par l'organisation mafieuse. Plusieurs vagues d'arrestations ont déjà eu lieu à travers le pays, et d'autres sont encore à prévoir. Santos prit le temps de rechercher d'autres informations pour compléter ce qu'il venait d'apprendre dans l'article. Que faire à présent? Gagné par la fièvre de l'enquête, il essaya de rassembler ses idées. Il était évident que jamais il n'obtiendrait l'autorisation de sa hiérarchie pour partir enquêter au Brésil. Il y avait trop d'obstacles administratifs et diplomatiques. En théorie, il pouvait contacter ses homologues brésiliens et leur transmettre un rapport. Mais il savait que cette démarche n'aboutirait à rien de concret. Frustré, il se renseigna néanmoins sur le site de plusieurs compagnies aériennes. Rio Branco, la capitale de l'état de l'Acre, n'était pas la porte à côté. De plus, l'endroit était particulièrement mal desservi. Au moins 3 escales en partant de New York. Le voyage était certes cher, mais pas excessif. Près de 1 800 $ en passant par une compagnie low cost. Une somme qu'il avait sur son compte. Il n'hésita pas longtemps. L'image de Nikki s'imposa de nouveau à son esprit. Comme téléguidé par une force extérieure, Santos reprit sa voiture, s'arrêta à son appartement pour rassembler quelques affaires et mit le cap sur l'aéroport.